Chaleureuse salutation pour changer d'habitude. Noël approche et nous avons déjà ouvert la saison hier après-midi avec le Noël des enfants. Et aujourd'hui, comme cela a été dit, eh bien, nous comptons ce dimanche comme le premier de l'Avent. Et c'est pourquoi nous démarrons une nouvelle série de prédications qui portera uniquement sur le début de l'évangile de Jean. Un texte qui est souvent lu, notamment à l'occasion de Noël ou dans cette période de l'Avent. Et donc c'est sur ce texte-là, plus précisément, celui qu'on appelle le prologue dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Nous en avons lu un extrait et je vais vous proposer que nous puissions lire ensemble l'ensemble de ce prologue, des versets 1 à 18. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Certains dans cette église connaissent bien ce texte. Et c'est pour cela que je vous propose, pendant 3 dimanches, que nous puissions zoomer sur ces 18 premiers versets de l'évangile de Jean, que nous puissions prendre le temps de ralentir. Et c'est pour cela que, tout particulièrement aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 5 premiers versets. Et en plus d'être magnifique, ce texte que nous venons de lire est particulièrement travaillé. Et j'aimerais simplement vous le démontrer d'après ce que certains spécialistes ont pu discerner comme structure de ce texte, une structure qu'on considère comme parabolique. C'est notamment le théologien Henri Blocher qui a mis cela en avant. Et vous voyez par cette structure que les versets se répondent les uns aux autres. Par exemple, le verset 1 et 2 trouvent son pendant au verset 18. Ainsi de suite, jusqu'au centre de ce texte, où nous discernons d'un côté ceux qui rejettent cette lumière qu'est Jésus et ceux qui la reçoivent. Et donc cette structure qu'on appelle une structure parabolique. Je vous montre cela pour réellement vous sensibiliser au fait que ce texte, ce prologue de Jean est particulièrement travaillé. Jean prend soin de pouvoir travailler ce texte dans le détail et de faire en sorte qu'il y ait des correspondances. Et il est clair qu'en commençant ainsi, Eh bien, Jean affirme d'emblée que ce Jésus, dont ses lecteurs ont peut-être entendu parler, n'est autre que le Fils de Dieu devenu homme. Et d'ailleurs, cela rejoint très bien l'intention de Jean lorsqu'il écrit cet évangile. Quelle est son intention ? Il écrit cet évangile pour que ses lecteurs croient que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, il possède la vie en son nom. Dites-moi, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu ? Et si c'est le cas, comment puis-je le voir dans votre vie ? Permettez-moi de supposer simplement que nous ne connaissons pas encore suffisamment Jésus. Et moi-même, il y a eu un avant et un après avoir étudié le texte de cet après-midi. Alors que Dieu utilise cette série de prédications pour nous permettre de mieux connaître son Fils venu parmi les hommes. Et c'est pour ça que cet après-midi particulièrement, je veux me concentrer sur ces 5 premiers versets qui sont tellement riches en enseignements. Et étant donné mon temps limité, parce que je n'ai pas 4 heures, je vais me focaliser sur 3 vérités concernant Jésus, qui est appelé ici la parole. Premièrement, première vérité, la parole est Dieu. Nous nous rappelons tous notre date de naissance. Moi particulièrement, hier, je m'en suis souvenu, et d'autres me l'ont rappelé. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, encore à notre époque, certaines personnes ne pourraient pas vous dire quand elles sont nées. Tout simplement parce que leur date de naissance n'a pas été enregistrée administrativement. Encore à notre époque, ça existe. Et plus nous reculons dans le cours de l'histoire, plus la date de naissance d'une personne devient approximative, voire totalement inconnue. On ne sait plus à quelle date telle personne a pu naître. Et pour Jésus, par exemple, il semble que ce n'est pas l'an zéro. En tout cas, d'après les données historiques qui sont à notre disposition, Jésus est né plutôt avant l'an zéro, pour ne pas dire avant Jésus-Christ, ce qui serait un non-sens. Cependant, Jean, dans notre texte, ne commence pas par la naissance de Jésus, mais il remonte beaucoup, beaucoup plus loin. Je relis le premier verset dans cette version plus littérale. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » 3 affirmations. 3 affirmations sur lesquelles nous devons nous arrêter. D'ailleurs, quand on dit « au commencement », cela nous fait tout de suite penser à la Genèse, au début de la Bible qui commence par le récit de la création. Et d'ailleurs, au verset 3, vous le voyez vous-même dans notre texte, il est aussi question de création. La première affirmation, « au commencement était la parole ». Rien n'était encore créé au commencement et pourtant la parole était déjà là. Et j'ai exprès lu l'ensemble du prologue pour que nous puissions affirmer sans équivoque que celui dont l'apôtre Jean parle dans ce premier verset est Jésus. Cela ne fait aucun doute. La parole dont il s'agit, dont il est question ici, on nous parle de Jésus. Alors pourquoi Jésus est-il appelé la parole ? Le logos, pour reprendre le mot grec. Parce que n'oublions pas que Jean écrivait en grec. Eh bien, pour les Grecs de l'Antiquité, le logos faisait partie du jargon des philosophes. Le logos désignait la raison universelle qui structure le monde. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à un jargon philosophique. Mais bien sûr, quand Jean appelle Jésus le logos, il ne pense pas du tout au même sens. Pour les Juifs, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est celle qui amène les choses à l'existence. Nous pouvons bien sûr penser au premier chapitre de la Genèse. Lorsque Dieu dit quelque chose, eh bien, la chose existe, elle apparaît. Et par exemple, au psaume 33, verset 6, où il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche ». La parole de Dieu, c'est aussi celle qui délivre. Et c'est ce que nous lisons dans le psaume 107, les versets 19 à 20. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Donc la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est aussi celle qui délivre. Il envoie sa parole et il délivre et il guérit les hommes. La parole de Dieu est aussi cette parole efficace. Et vous connaissez sans doute ce verset dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Et enfin, la parole de Dieu, c'est aussi celle qui apporte une révélation. Par exemple, parmi tant d'autres textes, dans Jérémie chapitre 1, verset 4, lorsque Jérémie dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Et après ce verset, eh bien, c'est Dieu qui révèle sa pensée, qui révèle sa volonté, qui révèle ce qui doit advenir du peuple d'Israël. La parole de Dieu apporte aussi une révélation. À partir de ce que je viens de citer, nous avons bien des raisons de penser que dans la continuité de l'Ancien Testament, Jean présente Jésus comme celui qui est la parole de Dieu dans le sens de la révélation ultime de Dieu. Jésus est appelé parole de Dieu dans le sens de la révélation ultime, la dernière révélation, mais aussi la plus grande, la plus extraordinaire, la plus parfaite de Dieu. Et j'emprunte l'expression au professeur de théologie Donald Carson, qui a écrit d'ailleurs un commentaire sur l'évangile de Jean. Dans le même sens, l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit aussi « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers ». Donc, on retrouve cette idée du Fils ou de Jésus en tant que parole. Ça va ? Jusque-là ? On continue. Deuxième affirmation, la parole était avec Dieu. Je le redis, rien n'était encore créé et pourtant la parole était déjà là. Elle était avec Dieu. Jean affirme qu'il existe une relation entre celui qui est la parole de Dieu et Dieu. Entre celui qui est la parole et Dieu. Il existe une relation qui existe depuis toujours. Et nous avons vu tout à l'heure, notamment à travers la structure, que ce verset 1 a son pendant au verset 18, qui est beaucoup plus explicite. Que dit le verset 18 ? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Nous avons la mention de cette relation entre le Père et le Fils. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. En affirmant que la parole était avec Dieu, Jean nous fait comprendre qu'il existait une relation au sein de la Trinité, en particulier entre le Père et le Fils. Et par ces simples mots, la parole était avec Dieu, nous entrevoyons juste un petit peu l'intimité inégalable entre le Père et le Fils. La parole était avec Dieu depuis toujours. Ce qui est d'ailleurs affirmé de nouveau au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'était la deuxième affirmation. Troisième affirmation, eh bien, Jean dit, la parole était Dieu. Non seulement la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Les témoins de Jéhovah vous diraient, non, il faut traduire, la parole était un Dieu. Ce qui est franchement problématique. Non, Jean écrit bien et le reste de son évangile le confirme, la parole était Dieu. D'un côté, Jean affirme que le Fils, le Père et le Fils sont distincts. Ce sont deux personnes. La parole était avec Dieu. Et de l'autre, Jean affirme qu'il ne manque rien dans la divinité du Fils. Le Fils est entièrement Dieu, au même titre que le Père est entièrement Dieu. Le Fils n'est pas une partie de Dieu, il est entièrement Dieu. Et je sais bien que cela heurte constamment notre compréhension, notre intelligence, lorsqu'on y pense. Parce que comment peut-on affirmer à la fois que Dieu est un et en même temps qu'il est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont bien des personnes distinctes? Eh bien, Dieu nous demande de le croire sur parole. De le croire sur parole dans la mesure où ses affirmations sont vraies pour lui, à son sujet. Combien même nous aurions du mal à le comprendre. Dans ce premier verset, on n'est qu'au premier verset, dans ce premier verset de l'évangile de Jean, nous avons une vérité qui ne peut pas être plus claire concernant Jésus. Celui-ci est Dieu de toute éternité, présent déjà au commencement, en relation harmonieuse et éternelle avec le Père, et bien sûr avec le Saint-Esprit aussi. Et en théologie, nous parlons de la préexistence de Jésus. Jésus n'a pas commencé à exister il y a 2000 ans. Il a toujours existé. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est que Dieu le Fils est devenu homme. Mais Dieu le Fils a toujours existé. Et qu'est-ce que cette vérité implique pour nous? Si Jésus est Dieu, alors ce que nous avons fait tout à l'heure est tout à fait juste. Il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. Il mérite que nous lui rendions un culte. Si Jésus est Dieu, il mérite tout cela. Si Jésus est Dieu, nous avons raison de plier le genou devant lui et de nous émerveiller devant sa personne. Et comme le dit l'apôtre Paul, il est Dieu béni pour toujours. Romains chapitre 9, verset 5. Il est Dieu béni pour toujours. Jean nous montre vraiment Jésus tel qu'il est, pas seulement le prédicateur qui vient de Nazareth, mais celui qui est Dieu. Entièrement Dieu et entièrement homme. Et les dimanches suivants, nous aurons l'occasion de parler de son humanité. Je crois que certains d'entre nous connaissent la série The Chosen. Qui connaît cette série? Juste pour que je puisse avoir une idée. Cette série présente des scènes de l'Évangile du point de vue de ceux qui ont côtoyé Jésus. Cette série, d'ailleurs, connaît un franc succès. Et la saison 2 sera diffusée à la télévision vers fin décembre sur C8. Bon, je ne vais pas faire plus de pubs, mais vous pouvez trouver cela. Donc, il y a eu la saison 1 l'année dernière, dans la période de Noël. Il y a la saison 2. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et cette série sur Jésus est populaire parce que Jésus est montré dans toute son humanité. Et les gens sont sensibles à ça. Un Jésus qui semble proche de nous. Un Jésus qui nous ressemble. D'ailleurs, dans cette série, Jésus est assez drôle parfois. Donc, un Jésus qui nous ressemble. Et peut-être que quand nous pensons à Jésus, nous préférons, si je peux employer ce verbe, nous préférons l'humanité de Jésus, car il semble plus proche de nous. Mais aimons aussi Jésus en tant que Dieu le Fils, celui qui a toujours existé. Celui qui fait un avec le Père, tout en étant distinct. Et en fait, il ne s'agit pas de choisir entre sa nature humaine ou sa nature divine. Il s'agit d'aimer Jésus pour ce qu'il est vraiment, tel qu'il est vraiment décrit dans la Bible. Et j'aurais aimé vraiment être présent quand Jésus ressuscité est apparu à ses disciples et que Thomas s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ». J'aurais aimé être là pour voir cela, pour voir ce Jésus à qui Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà le Jésus des Écritures en qui nous avons placé notre foi. Pas seulement le Jésus qui est venu il y a 2000 ans, mais celui qui a toujours existé. Et si Jésus est Dieu, la deuxième vérité ne doit pas nous surprendre. La deuxième vérité, c'est que la parole a tout créé. Si Jésus est Dieu, cette deuxième vérité ne doit pas nous surprendre. La parole a tout créé. Dans le début de la Genèse, nous connaissons l'efficacité de cette parole. Dieu dit et la chose existe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puisqu'au commencement, la parole était déjà là, il est évident que la parole a participé activement à toute la création. C'est ce que nous voyons au verset 3 de notre texte. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Littéralement, pas même une chose de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pas même une chose. Bien sûr, Jean dit la même chose de deux manières différentes ici, dans ce verset 3. Et s'il est évident, en lisant l'Ancien Testament, que l'univers a été créé par Dieu seul, il est tout aussi évident, en lisant le Nouveau Testament, que Dieu le Fils a participé à la création. Certains disent qu'il a été l'agent de la création, que Dieu a créé le monde par lui. Dieu le Fils n'a pas été à un moment donné tenu à l'écart. Il était là depuis le début, dans l'acte créateur. Mais c'est ce que nous découvrons notamment par ce texte-là. C'est ce que nous lisons également chez l'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, « Car c'est en lui, c'est-à-dire Jésus, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. » Celui qui est la parole était là dès le commencement et il a participé à la création. C'est par lui que Dieu a tout créé. Jésus a joué un rôle dans ce monde bien avant sa venue et bien avant la croix. Nous lui devons tout ce qui existe, tout ce que nous trouvons beau dans cette création. Tout ce qui nous émerveille quand nous regardons la nature. Nous lui devons le ciel étoilé, les chaînes de montagnes, les terrifiants volcans, les animaux mignons, les lacs paisibles, le soleil et la pluie. Nous lui devons notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos amis, nos voisins, nos collègues, notre boucher comme notre boulanger. Je pense que vous avez saisi l'idée. Quand nous parlons de la création, c'est vrai que nous ne pensons pas nécessairement à Jésus. Et pas plus tard que ce matin, Damaris me disait combien ça faisait bizarre de penser à Jésus comme ayant joué un rôle dans la création. Tant sa nature humaine domine dans notre pensée. Mais en qui avez-vous cru ? Jean, ici, mentionne que celui qui l'a suivi durant 3 ans était là au commencement et qu'il a tout créé. Nous ne devons pas sauter cette vérité au risque d'avoir un portrait incomplet de notre Seigneur. Et d'ailleurs, au verset 10, eh bien, Jean reprendra cette même idée en soulignant que Dieu a créé le monde par lui. Nous ne devons pas sauter cette vérité concernant le fait que la parole a tout créé. Et si celui qui est la parole était effectivement activement impliqué dans la création de ce monde, eh bien nous lui devons la vie. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'enchaîne l'apôtre Jean. La troisième vérité, la parole est vie et lumière pour les hommes. Verset 4, je relis, « En elle était la vie ». Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. J'en parlais à l'instant du rôle de la parole, du rôle de Jésus dans la création. Et maintenant, puisque la création est son œuvre, il est aussi la source de la vie physique. La source de cette vie qui a été donnée aux hommes. Nous avons ici, dans notre texte, la première mention du contact entre celui qui est la parole et l'humanité. D'où vient la vie si ce n'est de Dieu ? D'où vient la vie si ce n'est de Dieu ? Et le théologien James Packer rappelle à juste titre que les choses créées n'ont pas la vie en elles-mêmes. La vie vient de Dieu. Si nous sommes vivants encore cet après-midi, c'est parce que cette vie physique nous vient de Dieu. Les choses créées n'ont pas la vie en elles-mêmes. De même, d'où vient la lumière, si ce n'est de Dieu ? Et ce thème de la lumière que vous voyez ici, notamment mentionné au verset 4 et 5, ce thème de la lumière, nous le retrouvons plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Il en est question dans les versets qui suivent, et il en est question également quand Jésus déclare à son sujet qu'il est la lumière du monde. Et tout à l'heure, nous n'avons pas manqué de le chanter. Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Et la caractéristique principale de la lumière est évoquée ici. Elle brille dans les ténèbres. Selon la loi physique établie par Dieu, la lumière chasse les ténèbres. Et plus cette lumière est forte, moins les ténèbres occupent d'espace jusqu'à disparaître. Avons-nous ici, dans notre texte, une simple allusion à la création, au moment où la lumière a jailli au milieu des ténèbres ? Ce qui serait tout à fait cohérent avec ce qui précède. Et il me semble effectivement que nous avons ici une allusion à la création, cette lumière qui jaillit dans les ténèbres. Mais peut-être, en lisant notamment la suite du texte, que nous nous rendons compte que Jean, lorsqu'il parle des ténèbres, il ne parle pas simplement des ténèbres physiques, de l'obscurité. Par exemple, si nous reprenons la déclaration de Jésus. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », qu'est-ce qu'il dit ensuite ? « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les ténèbres évoquent plus qu'un phénomène physique. C'est l'image pour décrire la noirceur dans laquelle les pécheurs se trouvent. Une noirceur qui s'exprime par la rébellion, par la désobéissance, par le rejet de Dieu. Et nous comprenons mieux pourquoi Jean écrit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Dans ce sens-là, nous retrouvons aussi au verset 11 de notre texte, du prologue, le fait que tout le monde n'a pas accueilli cette lumière lorsqu'elle était parmi les hommes. Tout le monde ne s'est pas dit « Ah, enfin un peu de lumière !» Non, beaucoup ont préféré rester dans les ténèbres. Pensez aux pharisiens ou aux chefs religieux qui n'ont pas arrêté de s'opposer à Jésus, à la lumière. Dans d'autres traductions, comme celle que j'ai lue tout au début, la fin du verset 5 est traduite un peu différemment, parce qu'il y a une hésitation ou différents sens possibles pour le verbe utilisé. L'autre version, notamment la version du Semeur, traduit ainsi le verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Alors bien sûr, dans ce cas, le sens est différent. La lumière est apparue, et les ténèbres n'ont pas pu la vaincre. Les ténèbres n'ont pas pu l'empêcher de briller et ainsi de conduire certains à connaître véritablement Dieu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Quel que soit le sens, cela ne change rien à l'affirmation de départ, c'est-à-dire la lumière brille dans les ténèbres. Et lorsque nous associons la parole, la vie et la lumière, nous en arrivons à l'idée de la révélation. Parole, vie et lumière, nous arrivons à l'idée de la révélation. Parce que Jésus, et la révélation. Et la révélation qui a changé notre vie. Et la révélation qui nous a apporté la vie. Et vous le verrez la semaine prochaine notamment, que Jésus a donné avec cela le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est la révélation de Dieu qui nous a apporté la vie. Est-ce que je peux ajouter encore un peu de complexité à tout ça ? Donald Carson, que j'ai déjà cité, suggère de comprendre les versets 4 à 5 en lien à la fois avec le verset 3, où il est question de la création, et en même temps avec les versets 6 à 8, où Jean-Baptiste est présenté comme le témoin de la lumière. Et effectivement, les deux lectures sont possibles. Nous pouvons soit lire en lien avec le verset 3, c'est-à-dire avec la création, et voir simplement dans les versets 4 et 5 une allusion à la création, la lumière qui jaillit, soit avec la suite, où la lumière a un sens, on va dire, plus spirituel, c'est la lumière qui apporte la révélation, qui apporte le salut. Eh bien, Donald Carson dit, on peut lire en fait les deux en même temps. Et voilà comment il récapitule cela. Faut-il donc comprendre les versets 4 et 5 à la lumière du verset 3, ou en fonction des versets 6 à 8 ? Lequel est vrai ? La parole comme agent de la vie physique et lumière au moment de la création, ou la parole comme personne apportant révélation et transformation, écrasant les ténèbres de l'immoralité? La réponse, bien sûr, est les deux. Alors, c'est son avis, c'est son interprétation. Je vous la partage simplement pour vous montrer qu'il y a différentes lectures possibles. Jésus joue un rôle aussi vital dans la création, au moment où il donne la vie aux hommes, que dans la révélation, au moment où il nous fait connaître Dieu. Jésus joue un rôle aussi vital dans la création que dans la révélation. Personne plus que Jésus ne peut nous faire connaître Dieu. Jésus est la parole, la révélation parfaite, ultime de Dieu. Jésus est la lumière qui nous est indispensable et qui nous arrache de nos propres ténèbres. Repensez à l'aveuglement qui était le vôtre quand nous ne connaissions pas le Seigneur. Heureusement, la lumière a brillé dans les ténèbres. Heureusement, d'aveugles que nous étions, le Seigneur nous a donné de le voir tel qu'il est. Et un jour, nous le verrons face à face. Peut-être que dans votre quartier, là où vous habitez, ou bien là où vous travaillez, vous avez remarqué l'installation des illuminations. C'est le cas ? Nous trouvons cela joli à l'approche de Noël. Peut-être pas toujours très écologique, mais conservons l'idée que Noël est associé à la lumière. Parce que c'est ainsi que Jésus est présenté dans le prologue de Jean. Il est la véritable lumière, celle qu'il nous faut pour connaître Dieu. Et chaque fois que vous verrez ces illuminations, peut-être tout à l'heure, juste en rentrant, pensez à Jésus. Pensez à ce texte de Jean pour continuer à le méditer. Que Jésus puisse occuper nos pensées en cette période de l'Avent. Alors pourquoi pas, juste en jetant un coup d'œil aux illuminations et en se disant « oui, cela renvoie à la lumière et la lumière me fait penser à Jésus. » Tel que Jean le décrit. Nous avons peut-être à peine effleuré la profondeur de notre texte en considérant la présentation que Jean fait de celui qu'il a suivi durant 3 ans et bien au-delà. Jean le présente ainsi. Jésus est Dieu, distinct du Père, mais aussi autant Dieu que le Père. Jésus a participé à toute la création, alors non pas sous le nom de Jésus, peut-être qu'il faudrait que je le précise, mais en tant que Dieu le Fils. Dieu le Fils a participé à toute la création. Il était déjà là au commencement. Et Jésus est la source de la vie physique et spirituelle. Il est la lumière indispensable pour connaître Dieu, pour sortir des ténèbres. Nous avons besoin de cette lumière. Nos contemporains ont besoin de cette lumière. Nous parlons bien de ce Jésus en qui nous croyons et que nous aimons sans l'avoir vu. Considérez ce magnifique portrait que Jean en fait dans ce prologue. Considérez comment le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Jean veut que nous connaissions Jésus tel qu'il est vraiment. Pas juste un prédicateur qui vient de Nazareth, mais Dieu le Fils qui a toujours existé. C'est ce Fils que Dieu a envoyé sur terre pour que quiconque croit en lui ne soit pas éternellement éloigné de Dieu à cause de ses péchés, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle avec Dieu en étant pardonné, justifié, libéré, gracié. C'est l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle qui est là pour tous les êtres humains, les croyants comme les non-croyants. Et je reviens pour terminer à ma question initiale. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, comment puis-je le voir dans ta vie? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, il n'y a aucun doute sur le fait que nous avons à peine effleuré ce que nous pouvons comprendre de ces versets. Tellement cela renvoie à quelque chose qui nous dépasse, en considérant l'identité de notre Sauveur. En nous rendant compte que Jésus est ton Fils, celui qui a toujours existé, celui que nous adorons dans cette Église, celui que nous voulons annoncer auprès de nos proches, de nos contemporains, parce que nous savons que cette lumière est tellement indispensable pour les sortir de leurs ténèbres. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de pouvoir encore mieux connaître ton Fils dans cette période de l'Avent. De pouvoir le voir tel qu'il est décrit dans ta parole, tel que Jean le décrit dans son prologue. Et merci d'avoir inspiré l'apôtre Jean, de telle sorte que ses paroles nous sont parvenues et que nous puissions encore les méditer aujourd'hui, cet après-midi. Oui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que toute gloire te revienne. Amen.